La mission évangélique Vase d'honneur a le plaisir de vous présenter le message du pasteur Mohamed Sanogo, premier responsable de l'église. Nous vous souhaitons un agréable moment à l'écoute de la parole.
Amen. Alors vraiment, nous bénissons Dieu pour ce mercredi qu'il nous donne encore dans sa présence pour partager ensemble sa parole et avoir un moment de prière. Nous bénissons l'Éternel pour ce moment d'adoration qu'il nous a donné d'avoir, car nous sommes là d'abord pour lui. Nous sommes là pour célébrer le Seigneur. Seigneur, c'est pour toi que nous sommes là. C'est en ton nom que nous sommes là. C'est pour t'adorer que nous sommes là. C'est pour apprendre tes instructions que nous sommes là. Béni sois-tu, Dieu des cieux. Amen. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 3, verset 13, il dit: heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par la science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Dis avec moi la réflexion. Tu dis garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin, et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit. Quand tu as le pouvoir de l'accorder, ne dis pas à ton prochain va et viens. Amen. Amen. On peut continuer ainsi de suite. Ce passage nous parle de la sagesse. Dis avec moi la sagesse. Si on veut résumer, c'est que la victoire s'acquiert véritablement ou bien se manifeste par la sagesse. Amen. Et ce passage nous dit que la sagesse, ce n'est pas quelque chose d'inné. Ce n'est pas un don. Quand on va continuer dans le premier chapitre 4, il dit: avec tout ce que tu as acquis la sagesse. La sagesse se recherche. La sagesse se travaille. Ce n'est pas un don. Il y a ce qu'on appelle le don de la sagesse, qui est différent de la sagesse de la vie. Alléluia. Le don de sagesse dont il est question dans le Nouveau Testament, parlant des dons spirituels, c'est une sagesse divine que vous recevez à un moment donné pour résoudre un problème donné. Ce n'est pas quelque chose de continu. Amen. Par exemple, tu es coincé dans une situation. Le don de sagesse, c'est un peu comme le don de la prophétie. Amen. Le don de la prophétie, vous n'êtes pas en train de prophétiser à tout moment. Dans une atmosphère donnée, vous recevez un don et vous donnez une prophétie de la part de l'Éternel. Ainsi dit Dieu, voilà telle ou telle chose qui va arriver. Amen. Le don de sagesse, c'est pareil. C'est-à-dire, vous êtes dans une situation compliquée, dans une situation difficile, où on ne sait trouver une solution, et l'Éternel vous accorde une sagesse, une grâce à l'instant même, qui donne de décanter la situation dans laquelle vous êtes. Ça, c'est une manifestation du don de la sagesse. Et une personne qui a reçu le don du Saint-Esprit de la sagesse est une personne qui la manifeste un peu plus régulièrement. De même qu'une personne qui a reçu le don de la prophétie, une personne qui a reçu un autre don quelconque, amen. C'est pas qu'elle le manifeste tout le temps, mais souvent, de temps en temps, bien très souvent, le Seigneur l'utilise dans ce sens-là. Et en dehors de cela, donc, la Bible nous parle de la sagesse. Dis à ton voisin, la sagesse. Alléluia. Il faut acquérir la sagesse. Et je le dis, je l'ai dit la dernière fois en introduisant le message, une des erreurs que nous avons connues dans le christianisme, c'est de croire que l'intimité avec Dieu, la prière, l'intimité avec Dieu, nous exempte des leçons de sagesse. C'est-à-dire, c'est parce que je prie, parce que je veille, parce que je cherche la face de Dieu, n'est-ce pas, naturellement je serai sage. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça qu'il faut aborder les Écritures. Alléluia. L'intimité avec Dieu produit des résultats. Mais la sagesse parle de la connaissance des lois de Dieu, de la connaissance des choses que Dieu a établies. Il faut les connaître, il faut les apprendre, il faut les chercher. Et je vous ai dit que Jésus-Christ croissait en sagesse. C'est-à-dire, la Bible dit qu'il croissait dans le livre de Luc, que Jésus croissait en sagesse. Ça veut dire tout simplement que pendant son évolution, il prenait le temps d'apprendre les choses. Il posait des questions, il s'informait. Ne croyez pas que votre intimité avec Dieu va vous exempter de l'apprentissage de la vie. Alléluia. Alléluia. Il faut donc avoir l'humilité. Et le fait que nous ayons la communion avec Dieu nous donne de l'avance sur toute autre personne en ce qui concerne la sagesse. Parce que les Écritures nous en parlent. Alléluia. Et je vous ai dit, si des choses ne fonctionnent pas dans votre vie, si certaines choses ne marchent pas dans votre vie, c'est que sûrement il y a un principe de Dieu. Il y a une loi de Dieu que vous ignorez. Ou, même si vous la connaissez, que vous n'appliquez pas. Amen. Ce n'est pas simplement une affaire de bon vouloir de Dieu. C'est-à-dire, bon, Dieu n'a pas envie maintenant de me bénir. Ou bien, ce n'est pas mon temps pour m'enrichir. Pour le moment, là, Dieu ne veut pas que mes affaires marchent. Non. La Bible nous promet que, de même qu'un père ou bien une mère ne donne pas un serpent à son enfant qui aspire à une bonne chose, de même l'Éternel ne va pas te donner une mauvaise chose si tu aspires à de bonnes choses. Alléluia. Si tu lui demandes quelque chose, Dieu va te donner ce qu'il y a de bien. Alléluia. C'est pourquoi il faut que vous appreniez la sagesse. Et quelquefois même, les hommes de ce monde ont acquis, souvent dans beaucoup de domaines, une certaine sagesse que même les enfants de la lumière n'ont pas. C'est de cela que le Seigneur parlait dans le livre de Luc chapitre 16, où il dit de ceci, « Les fils de ce siècle sont plus avisés, sont plus prudents que les enfants de la lumière. » Tout simplement parce que nous sommes un peu paresseux. Nous sommes un peu paresseux, nous enseignons, nous disons que notre vie de prière va tout résoudre. Et depuis des années, nous marchons dans ce niveau-là et nous connaissons de très forts taux de misère, de pauvreté, d'échec, malgré notre communion, malgré notre vie de prière. Et c'est par ignorance donc que beaucoup de chrétiens ont rétrogradé, ont abandonné la main de Dieu, sont obligés d'aller utiliser les méthodes du monde pour pouvoir résoudre leurs problèmes concrets auxquels ils sont confrontés. Pourquoi ? Parce que l'Église n'a pas pris le temps de les former. On n'a pas, par exemple, appris aux chrétiens à savoir faire la politique de Dieu. Si un chrétien se retrouve à être député, se retrouve à être maire, comment est-ce qu'il doit administrer? Qu'est-ce qu'il doit faire? Et très souvent, lorsque les enfants de Dieu se propulsent, sont propulsés à ce niveau, ou bien même au niveau des affaires, quand vous faites les affaires, quand vous êtes confronté à certaines personnes, à certaines choses, comment vous vous comportez? Et souvent, les chrétiens ne savent pas. Les seules leçons qu'ils trouvent, ce sont celles qui existent dans le monde. Parce que dans l'Église, ce qui est très important, on va t'apprendre comment aller au ciel. Alléluia. Mais nous devons faire venir le règne de Dieu sur la terre aussi. Amen. Il faut enseigner toute la Bible. La Bible est un grand livre qu'il faut enseigner de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. L'Éternel nous a interdit de retrancher quelque chose dans la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas retrancher des principes en disant que ça là, ce n'est pas important. Que ce qui est important, c'est ma vie d'adoration, c'est ma vie de prière. Mais Dieu explique aussi comment on éduque les enfants. Pas dire non, si je prie seulement, si je cherche la face de Dieu, si je jeûne, je saurai par le Saint-Esprit comment on éduque un enfant. Qui t'a dit cela? Il faut lire la parole de Dieu. Dieu en parle. Dieu parle de toutes ces choses. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi ta sagesse. Alléluia. Et des principes de sagesse, nous parlons, nous sommes en train d'étudier donc un principe important de la sagesse qui est la connaissance des saisons. Dis avec moi les saisons. Amen. Donc les saisons sont des périodes, comme nous avons introduit, sont des périodes dans la vie. Ce sont des périodes, une saison. La saison de pluie, la saison sèche, c'est une période. Mais ce sont des périodes pendant lesquelles se passent des phénomènes assez particuliers. Et ce qui se passe dans l'atmosphère ou bien pendant cette période-là doit déterminer les actions que tu dois mener, les actions que tu dois avoir, ce que tu dois faire. Alléluia. Si tu ne tiens pas compte des saisons, beaucoup de tes actes seront inappropriés. Même une bonne manière de faire, une bonne manière de faire est fonction de la saison. Alléluia. Et nous avons dit ceci, qu'il y a deux grands groupes de saisons. Est-ce qu'on est ensemble, mes frères? Est-ce que quelqu'un avec moi, ce soir au mercredi des vainqueurs? Alléluia. Il y a deux grands groupes de saisons, les saisons de la vie et les saisons atmosphériques ou les saisons circonstancielles. Les saisons de la vie sont les saisons, la saison de la vie, pardon, mais le type de saison de la vie sont les saisons qui ne sont pas cycliques, c'est-à-dire qui ne reviennent pas. C'est l'enfance, on a divisé en trois périodes, pour m'assurer que vous comprenez bien le coup. Il y a combien de grandes saisons dans la vie? Combien? On les cite, la première, la deuxième, La troisième, la période adulte ou bien la période de maturité. Alléluia. Et la Bible dit que le royaume de Dieu est comme une graine de sénévé. Ça veut dire quoi? Elle commence tout petit et elle finit grand. Tout ce que Dieu fait transite par ces trois saisons. Il y a la saison où ce que Dieu fait est enfant. Et je vous expliquais que ce principe de l'enfance, de la jeunesse et de la maturité s'applique à tous les niveaux. Sur votre vie vous-même. Ce n'est pas cyclique dans le sens que vous n'aurez jamais encore 3 ans. Alléluia. Mais dans l'enfance, il y a un comportement donné. Dans la jeunesse, il y a un comportement donné. Dans la période adulte, il y a un comportement donné. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen, amen. Et nous avons appris donc à gérer ceci. Et cela est vrai donc pour vos entreprises, pour vos activités. Une activité qui commence est une entreprise enfant. Cela n'a rien à voir avec le chiffre d'affaires avec lequel tu as commencé. Tout ce qui commence, tout ce que tu touches pour la première fois est forcément enfant. Et il y a une attitude appropriée. Alléluia. Et pour rire un peu, je vais te donner cet exemple. Lorsqu'on salue, lorsqu'on dit à une personne « bonjour », on s'attend à une réponse. Qu'elle nous dit aussi « bonjour ». Si tu as un bébé de 5 mois et que tu lui dis « bonjour », est-ce que tu t'attends à une réponse? Alors, on a expliqué ceci dans la loi des saisons. Quand vous commencez une entreprise, qu'elle est une enfant, il y a des attentes qu'il ne faut pas avoir. Normalement, la politesse, c'est que lorsque tu dis bonjour, on te répond bonjour. Mais la loi de la réponse, là, est valable à une période donnée. Il y a un moment où ce n'est pas applicable. Si l'enfant de 5 mois te répond bonjour, tu vas fuir. Amen. Pourquoi? Parce que donc, tu peux prendre le bébé, plaisanter avec lui, guili guili, bonjour bébé, tu vas faire ça au bébé, mais tu t'attends pas à une réponse. Alléluia, alléluia. Et il faut que vous ayez le discernement des saisons. Amen. Pourquoi c'est si important? La Bible dit ceci, Genèse chapitre 8 verset 22, que Dieu a établi les lois des saisons, elles vont demeurer tout le temps. Il dit dans le livre d'Ecclésiaste qu'il y a une saison pour tout. Dans le livre de Agé, il parle des personnes qui ont semé dans la mauvaise saison. Il décrit encore dans le livre de 1 Chronique, voilà, chapitre 12, verset 32. Il parle des fils d'Issacar qui avaient l'intelligence des temps et des saisons pour savoir ce que devait faire Israël. Alléluia. La saison doit déterminer vos actions. Amen, amen. Amen. Alors rapidement, on a dit qu'il y a 7 lois. Nous sommes en train de parler des saisons de la vie. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'espère qu'on va pouvoir achever les saisons de la vie. Dis avec moi, les saisons de la vie. Amen. On a donné des bons exemples. J'expliquais aux personnes pourquoi certaines entreprises meurent vite malgré le fait que la personne ait reçu l'inspiration de Dieu de commencer ce projet. Et je vous ai donné cet exemple de ce frère qui est l'exemple de beaucoup de personnes sur la base de ces lois qui est venu me voir. Comme beaucoup d'entre eux à qui j'ai prêté, pas prêté, je lui ai donné même de l'argent pour monter l'entreprise. Un frère sincère, un frère honnête. Et lorsqu'il a eu cet argent, c'était quelqu'un qui n'avait pas de logement, qui n'avait pas de domicile, qui dormait sur les bancs de l'église. Il voulait entreprendre. Je lui ai dit, c'est une très bonne idée. On lui donne de l'argent. Il commence son commerce. Au lieu de commencer le commerce, il se dit, la première des choses, il est légitime que j'ai un toit où dormir. Il prend donc cet argent qui devait servir à faire son commerce. Il va investir sous le toit. Et j'ai dit, c'était une erreur. Amen. Il vient de désobéir à une des lois de saison. Il y a une des lois de saison donc, qui dit, parmi les lois de saison donc, que nous allons citer maintenant, la première des lois dit, discerne les saisons de la vie. On a étudié, prenez les CD. Deuxième loi, la loi de l'autorité. Elle parle donc du pouvoir ou bien de l'autorité qu'il faut exercer en fonction des saisons. Alléluia. Pour revenir à l'histoire de ce frère, juste avant de revenir à cette histoire, je disais que il y a un moment, même avec ta femme ou avec tes employés, il n'est pas adapté, par exemple, il n'est pas approprié d'élever la voix. Alléluia. Parce que c'est une saison. Si tu élèves la voix, si tu prends une forme d'autorité dans une entreprise qui vient de commencer, si tu l'utilises, tu peux faire fermer ton entreprise. Parce que ce n'est pas la saison. Si on te nomme chef de service dans une entreprise, on t'a dit que tu es le chef, mais il faut savoir que tu es le chef par nomination. Tu n'as pas encore, ton trône n'est pas encore affermi. Si ton trône n'est pas affermi, il faut savoir que les employés qui sont là, ils t'acceptent par le titre, comme leur chef. Mais comme ton trône n'est pas affermi, tu ne peux pas te comporter comme le fondateur de la boîte. Quand l'entreprise vient de commencer, tu dois avoir un comportement. C'est-à-dire ton autorité, tu l'assieds par l'exemple. Alléluia. Je l'ai dit, tu ne peux pas réprimander un enfant qui a 3 mois à faire pipi sur lui. Est-ce qu'on crie sur un enfant comme ça? Voilà, donc en fonction de l'âge, il y a une façon d'agir. Et tout ce que tu commences comme enfant, il y a aussi un comportement par rapport à l'autorité. Utiliser mal le pouvoir ou l'autorité, n'est-ce pas? L'utiliser dans la mauvaise saison peut détruire totalement la vie, peut te faire perdre l'autorité plus tard. Fais en sorte que personne ne va te considérer. Et après, des personnes parmi nous sont nommées à des postes, on te vide de la boîte, on dit non, pour incompétence. Mais tu ne sais pas diriger les hommes. Tu ne sais pas diriger parce que l'ancien patron, il était autoritaire. Quand il dit à droite, tout le monde va à droite. Toi aussi, tu arrives, tu veux crier à droite. Frère! Et c'est pour ça que je dis, même si je viens et que je vous prends en tant que pasteur, je ne dis pas le responsable du département et on te met le responsable du département. Il faut savoir toujours, tu n'as pas mon autorité. Le fait d'être nommé te donne, c'est une nomination. La Bible dit que Roboam a perdu l'autorité sur Israël. Tout simplement parce qu'il a voulu être comme son père Salomon. Il dit, Salomon, vous frappez comme ça, moi je vais vous battre comme ça. Le peuple dit, on ne marche plus avec toi. Tu n'es pas Salomon. Ton père a fait ses preuves. Prends le temps de bâtir, de construire et d'asseoir. Amen, amen, amen. Amen. Donc, discerner les saisons, la loi de l'autorité. La loi consomme le fruit en son temps. Et la quatrième loi, accepte de recevoir, c'est ce que nous nous sommes arrêtés, accepter de recevoir les bases durant l'enfance. Donc nous sommes toujours dans les saisons de l'enfance. Dis avec moi les saisons de l'enfance. Amen. Je rappelle que ça s'applique à votre couple, ça s'applique à tout ce qui commence. Amen. Et on va donner donc des exemples pratiques. Alléluia. L'exemple que j'avais donné concernant le frère concerne la loi qui dit de ne pas manger le fruit avant le temps ou de ne pas utiliser son héritage avant le temps. Qu'il y a des choses qui sont à vous, mais il y a un temps pour les consommer. Il y a des privilèges qui vous seront accordés, mais ne les réclamez pas trop tôt. Amen. C'est ce qu'il dit. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. Si vous mangez très tôt, si vous mangez le matin dans une entreprise, elle va fermer. Amen. Alléluia. Je ne parle même pas de corruption. Je ne parle même pas de corruption. Je parle de ce qui est à vous. Un héritage promptement à qui dit l'Éternel sera maudit quand viendra la fin. Maintenant, la quatrième loi dont on a parlé, c'est accepter de recevoir les bases durant l'enfance. Amen. Amen, amen. L'enfance est la période, c'est la période où on pose les fondements. Psaume 11, verset 3, dit ceci. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Je commence ma boîte. Je viens de travailler dans une boîte. Je viens de me marier. Mon mariage est enfant. Alléluia. La Bible dit ceci, que ce qui est juste, ce qui doit être fait, ce qui est correct dans ce passage, dépend de la fondation. Il dit ceci. Si les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Autrement dit, il n'y a pas de justice s'il n'y a pas de base. Ou bien, rien n'est vrai. Ou bien la vérité même est fonction de la base, du fondement. Alléluia. Alléluia. L'enfance est la période où on pose les fondements. Dis avec moi les fondements. Les fondements. Quand vous êtes enfant vous-même, c'est là que vous apprenez le béaba de la vie. Ça, on l'a expliqué la dernière fois. On a pris un passage où le Seigneur dit ceci en Matthieu chapitre 7, verset 7, où l'Éternel dit, demandez l'on vous. Je vous ai dit que la période de l'enfance, c'est la période où, comme l'enfant, on demande et on reçoit. La période de l'enfance, c'est la période où on assoit les principes de base. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11 dit ceci. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Alléluia. Alléluia. Si je commence une œuvre, demandez, on va vous donner. Je dois chercher tout projet que je commence. Je dois chercher à poser le béaba de la structure. Comment ça fonctionne? Je veux commencer une entreprise de transit. Les cours de transit que tu as fait, c'est bien. Mais il y a des personnes qui sont dans le domaine avant toi. Tu n'es qu'un enfant. Paye le prix, informe-toi encore. Va et puis repose les fondements. La fondation, les choses de base, les principes de base. Comment on achète, comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on fait? La Bible dit, demandez, l'on vous donnera. Pour parler de cette période, c'est la période où il faut poser beaucoup de questions. C'est pourquoi pendant la période de l'enfance, à 12 ans, Jésus partait voir les prédicateurs avant lui pour leur demander, mais comment ceci? Comment on fait cela? Comment on fait ceci? Comment on fait cela? Quel que soit ton âge, si tu commences dans un domaine, sache que tu es un enfant. Ne dis jamais, oh pasteur, je connais cette entreprise-là, c'est facile. Ce commerce-là, on va en Chine. On revient, on vend. Mon frère, tu vas commencer, ta boîte va fermer. Demande aux doyennes des vendeuses, demande-leur, informe-toi. Dans la vie chrétienne, tu commences une œuvre, informe-toi lorsque tu es enfant. Prends le temps, cherche des personnes qui l'ont fait avant toi. Paye même le temps même d'aller faire un stage. Investis en cela. Tu veux monter une microfinance, tu veux faire de la finance, va, fais-toi embaucher comme stagiaire. Non, ne prends même pas de salaire. Assieds-toi et apprends. Observe les anciens. Ça ne veut pas dire que tu feras exactement ce qu'ils feront, mais au moins, tu vas rechercher à poser les bases. Amen. Alors, ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est que il y a la manière dont vous-même vous vous formez. Je vous avais dit qu'on allait en prendre. Lorsque moi-même je gère un enfant, qu'est-ce que cette saison-là attend de moi? Donc, c'est mon enfant biologique, mon enfant de l'entreprise et tout autre enfant que vous pouvez penser. La première des choses, c'est que pour éduquer un enfant, pour former mon entreprise, moi-même, l'éducateur, je dois être mature. Alléluia. Je dois être mûr. C'est un peu ce que j'expliquais la dernière fois. Moi-même, je dois être mature. La Bible dit ceci, pour revenir à ce passage qu'on avait lu tantôt. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant. J'avais lu ce passage en insistant sur le côté et les princes mangent dès le matin. Ça, c'est le temps où on mange. Mais il dit aussi que le pays va connaître un malheur si son dirigeant est un enfant dans son attitude, dans sa tête. Et on va voir c'est quoi un enfant. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Même si un chrétien est zélé, il ne faut pas le prendre pour le mettre irresponsable. Vous-même, quel que soit votre zèle, si on vous propose rapidement une responsabilité, dites, je suis encore enfant, laissez-moi apprendre. Ce n'est pas parce que tu pries en langue, ce n'est pas parce que tu as prié, les paralytiques se sont levés, ils ont marché. Ça, c'est le don spirituel. Le don spirituel, ça n'a rien à voir avec la sagesse, avec la croissance de la sagesse en toi. Alléluia. Le don, Dieu le donne à qui il veut. Il dit, il y a une personne, il donne 2 talents. À une autre, il en donne 5. Celui qui a 2, il a travaillé, il en a eu 2 autres. Il a eu 4. Pendant qu'il a les 4, Dieu vient aussi, il prend une autre personne, j'imagine, et il donne au second 5 talents. Est-ce que celui qui a les 5 talents peut se croire supérieur à celui qui avait 2 talents et qui a travaillé pour en avoir 4? Quand il va regarder les montants, il va dire, petit, tu es mon petit. Moi j'ai l'argent, j'ai 5 talents, toi tu en as 4. Non, c'est différent, toi tu viens de commencer. Alléluia, alléluia, tu n'es pas supérieur. Amen, amen, est-ce qu'on est ensemble? Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant. Alors, s'il se trouve que Dieu me fait la grâce de commencer à diriger, il y a des circonstances où un enfant se retrouve en train de diriger une entreprise. Ça veut dire toi-même, tu n'as pas fini de croître. Toi-même, tu n'as pas fini d'apprendre dans le domaine. Et puis on te dit, pour une raison ou pour une autre, parce qu'il n'y a plus personne. Tu te retrouves le chef parce que tu es le plus formé, mais tu es quand même un enfant. Et c'est là qu'on va toucher la loi 7 qui parle de racheter le temps. Si tu sens que tu es un enfant et que tu te mets à diriger quelque chose, tu dois racheter le temps. Tu dois travailler et payer, te reformer sur ce que tu n'as pas pu faire parce que, bon, pour une raison ou pour une autre, tu te retrouves positionné là. Alléluia. Pour une raison ou pour une autre, tu te maries très jeune. Tu dois racheter le temps. On va expliquer ça dans la loi 7. Amen. Tu dois affermir ton autorité. Car si tu es un enfant que tu diriges avec la mentalité de l'enfant, imaginez-vous, est-ce que vous pouvez confier votre maison à un enfant, à votre enfant qui a 12 ans? Vous allez la confier à la nounou, même si l'enfant est le propriétaire, tout simplement parce qu'il est encore enfant. Amen, amen. Amen, amen. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. Première chose, si je veux pour former un enfant, pour diriger une entreprise, je dois moi-même travailler ma maturité. Je dois moi-même me lever constamment. Je dois moi-même monter mon niveau. Alléluia. Alléluia. On me met chef de service parce qu'il n'y a plus personne. Je dois m'auto-former. Je dois affermir ma maturité. Maintenant, tout projet qui commence doit avoir, j'ai dit tout à l'heure, j'ai lu le passage du psaume 11, verset 3. Il dit que si les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Je dois, pour tout enfant, je vais aller sur l'exemple des enfants qu'on éduque, poser les bases. Les bases de l'éducation, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on apprend à un enfant? On dit bonjour. C'est pas ça? Qu'est-ce qu'on apprend à un enfant? La première base, c'est la communication. Le langage. Parler. Alléluia. Parler. Apprendre la politesse. C'est utile dans la vie. C'est utile plus tard. Mais ce n'est pas directement rattaché à la productivité de ton travail. Indirectement, par contre. Amen. Mais ce sont des bases qu'il faut que l'enfant apprenne. L'éducation de base, la propreté, la rigueur dans le temps. Si un enfant manque les bases, si par exemple dans votre enfance, on ne vous apprend pas la ponctualité, quand vous allez être grand, vous allez avoir ce problème. Vous allez toujours être en retard. Moi j'ai manqué ça. Mais j'ai dû racheter le temps. Alléluia. Donc si je dirige un enfant, quand je dirige une entreprise, je dirige un groupe de personnes, lorsque c'est tout nouveau, qu'est-ce que Dieu attend de moi pendant la saison de l'enfance? C'est de poser les bases à la structure. Les bases, c'est quoi la base? Par exemple, dans une boîte. Lisons d'abord les passages. Proverbes chapitre 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ok. Dieu nous dit que tout ce qui est enfant, parce que quand il dit instruire l'enfant, on a compris que ce n'est pas forcément nos bébés biologiques, mais c'est tout ce qui commence. Il dit, pendant que tu passes par la saison de l'enfance, dans toute chose, ou bien une chose en train de passer par la saison de l'enfance, et toi, le papa, la maman, tu es en train de la former, ton rôle, c'est de lui donner les instructions de base afin que lorsqu'il sera grand, il ne s'en détourne pas. Alléluia. Alléluia. Je donne l'exemple de la ponctualité. Vous arrivez, vous êtes des amis, vous vous mettez ensemble, vous commencez votre boîte. Quelle est l'image que vous avez plus tard de la structure? C'est que on doit travailler, on doit être rigoureux. On doit donner à l'entreprise de rentabiliser. Pour que l'entreprise se rentabilise, par exemple, un exemple, il faut être tôt au boulot. Ça, c'est une base d'instruction. Quand ton entreprise commence, ne permet pas à tout le monde, aux personnes, aux employés, aux personnes qui sont avec toi, de gérer leur emploi du temps à leur guise. En disant, ils sont suffisamment matures pour comprendre qu'on ne peut pas réussir sans la ponctualité. Parce que tu viens de commencer, instruis la base de la ponctualité. Parce que tu viens de prendre une nounou chez toi à la maison, c'est une enfant. Pose les bases. Dis à un voisin, pose les bases. Si les bases ne sont pas posées, demain tu auras des problèmes. Alléluia. Tu viens de commencer ta petite entreprise d'Acheke. Tu es censé commencer à vendre à 7 heures. Mais tu ne poses pas les bases. Toi-même, tu te laisses libre. Alors, ce matin, je suis venu, mais j'étais trop poussé dans une onction d'exhortation. Un frère, mon frère. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas une bonne base. Les bases, ce sont des choses qu'on pose en dehors des sentiments. Et ce n'est pas ce que tu ressens. C'est une éducation précise. Tu te la donnes, on va lire encore les passages où il dit d'avoir même une verge pour inculquer cela à l'enfant. Alléluia. Vous avez remarqué, il y a des enfants qui comprennent. Tu leur expliques, mon fils, quand on mange comme cela. Voilà comment tu viens à table. On est à table à 12 heures. Ça, c'est une base. Tu dis, on mange à midi. Quand il sera adulte, il va prendre l'habitude de manger à midi. Mais un adulte, tu n'as pas lui imposé l'heure du repas. Amen. Si par exemple, tu ne poses pas la base de l'heure du repas dans tes enfants, plus tard, ils vont mal s'alimenter. Si, alléluia, mais au début, tu ne laisses pas l'enfant choisir. Il ne vient pas pour dire, moi je n'ai pas faim maintenant, je vais manger à 15 heures quand ça me plaît. Ça c'est un adulte qui fait ça. Un enfant, on lui pose les bases. Ce n'est pas son désir ou ses envies qui conduisent la maison. C'est la maison qui l'instruit. Tous les parents qui ont laissé leurs enfants faire ce qu'ils voulaient, les ont perdus plus tard. Car il est très difficile d'amener l'enfant dans la justice si les fondements ont été faussés. La Bible dit, si les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Si quelqu'un, dans son éducation de base, on ne lui a pas appris, par exemple, la ponctualité, même si tu prêches sur la ponctualité, c'est difficile qu'il rentre dans la justice. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que la justice de Dieu, elle a besoin même d'une base. Et la base se fait durant l'enfance. Et tout ce qui est enfant dans votre main, si vous ne posez pas les bases, vous aurez des problèmes demain. Votre société va fermer. Parce que vos employés ont pris de mauvaises habitudes que vous n'avez pas corrigées pendant l'enfance. Vous croyez simplement qu'en leur expliquant la sagesse. Un enfant, il y a des enfants, tu leur expliques, ils comprennent. Il y a des fois, il faut là. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Mes amis, ce sont les lois des saisons. Ce sont les lois des saisons. Dans la saison de l'enfance, il y a un comportement. Quand je commence mon entreprise, quand l'entreprise est enfant, je vous ai dit ceci, je ne dois pas m'attendre à profiter du fruit. Je ne mange le fruit d'un arbre que lorsqu'il est mature. Quand je suis le père d'un projet, tout ce que je commence, je n'attends pas le fruit. Je vais rémunérer qui? La nounou qui s'occupe de l'enfant. Mais moi-même, l'enfant ne me donne rien. Toute personne qui veut profiter très tôt de son enfant va le tuer. Mais toi-même, le propriétaire, d'une chose, tu ne dois pas en jouir avant le temps. Tu dois laisser l'élément grandir. Mais pendant, quel est ton rôle? Pendant que la structure est enfant, ce n'est pas de chercher les milliards. Les milliards, c'est à l'âge de la maturité. Je vous ai dit, les saisons varient en fonction des... Chaque élément a sa propre saison. Ce n'est pas général. Un homme, il devient... Il quitte l'enfance après 12 ans. Il rentre dans l'adolescence. Un chien, il devient adulte à 4 ans. Donc, chaque espèce porte en son sein ses saisons. Vous me suivez? Donc, il ne faut pas dire, après 5 ans, je vais passer comme ça mon entreprise. Non, l'entreprise de Yao peut devenir jeune avant l'entreprise. Il ne faut pas te comparer avec quelqu'un. Ce que tu fais, ce n'est pas une période de temps. Le travail que Dieu te demande de faire aura sa propre saison. C'est toi qui dois apprendre à dessiner la saison. Amen. Alléluia. Tu parles de lui, en 3 ans, il a atteint tel chiffre d'affaires. Moi aussi en 3 ans, ce n'est pas pareil. Donc, ce n'est pas une affaire de temps et de date. On va voir tout à l'heure comment on gère la transition. Mais, lorsque je discerne que tout ce que je commence est enfant, je dois savoir que ce qui importe, ce que Dieu attend de moi, c'est de poser les bases. Ce n'est pas d'en jouir. Ce n'est pas d'attendre que mon entreprise me prenne en charge, me fasse voyager, m'offre mes plaisirs. Non. On ne mange pas le fruit avant le temps. Malheur au prince qui mange dès le matin. Ce que le prince doit faire, ce que tu dois faire, c'est de poser les bases. Dis à un voisin, pose les bases. Alléluia. Pose les bases. Et quelquefois pour poser les bases, il faut de la fermeté. Proverbe chapitre 22, verset 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Proverbe 23, verset 13. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Proverbe 29, verset 15. La verge de la correction donne la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Ça, je n'ai pas compris ce passage. Pourquoi ça fait honte à la mère seulement? Et nous? Bon, en fait, quand on dit la mère, c'est une manière de parler. Ça peut être un homme aussi. C'est celui qui a enfanté le projet. C'est celui qui a enfanté. Tout ce qui sort de toi. Mes amis, de quoi je suis en train de parler? Dieu veut bâtir des œuvres. Vous avez une vision. Et votre vision, lorsqu'elle va naître, sera enfant. Lorsqu'elle sera enfant, lorsqu'elle va apparaître, ça peut être quoi? Ton ministère de chantre. Dieu t'appelle à être chantre. Tu commences à chanter. Ce qui est important au début, là, ce n'est pas combien de CD tu vas faire pour avoir de l'argent. Ce n'est pas ça. C'est quelles sont les bases de la musique. C'est ce qu'il faut connaître. C'est ce qui va garantir ton avenir. Car si tu n'as pas les bases, et c'est le problème qu'on a aujourd'hui, par exemple, en Côte d'Ivoire avec les chanteurs. Les gens ne connaissent pas Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Ils ne connaissent rien de la musique. On regarde le monsieur, il a une belle voix. Viens chanter, on va faire un CD. Les personnes ne sont pas formées. Les personnes n'ont pas les bases. Et dès qu'il s'agit de choses sérieuses, où la plupart de ces personnes-là, dès qu'elles commencent à avoir un peu de gloire, elles se détournent des voies, elles rentrent dans la drogue, dans l'alcool, dans toutes sortes de débauches. Pourquoi? Parce qu'elles ont manqué leur enfance. On ne leur apprend pas les bases de l'éducation. Je vous ai expliqué par exemple un homme comme qu'on a bien apprécié, Michael Jackson. Il était petit, il est devenu une star. On lui a fait sauter les bases du comportement, les bases de l'éducation. Il n'a pas eu ça dans son enfance. En toute chose, il faut des bases. Je sais que je suis appelé à la prédication. Je sais que je suis appelé à faire quelque chose. Il faut les bases. Tu es né de nouveau. Tu viens de te convertir. Tu ne peux pas aller loin si tu n'as pas les bases du christianisme. Vous savez, les enseignements que je donne, ce n'est pas compliqué, hein? Mais beaucoup des enseignements ne sont pas les bases. On a une école, l'école du potier. Ce n'est pas parce que vous m'écoutez prêcher que ça veut dire que vous connaissez Jésus. Il y a des personnes qui vous attrapent ici. Je vous demande, est-ce que tu peux démontrer que Jésus-Christ est Dieu? Ça, c'est une base du christianisme. Ta foi chrétienne vient de commencer. Tu ne connais même pas les bases. Ce que tu sais, c'est quelle est l'onction que je vais prendre pour chasser un démon. Mon frère, ce n'est pas la base. Le jour où le diable va te secouer sérieusement, sur ta foi, est-ce que Jésus est Dieu? Tu vas rester là parce que tu n'as aucun verset. Pourquoi? Parce que au culte, on donne les enseignements de la vie. C'est comme ça que Jésus prêchait. Mais à l'école du potier à Vazonneur, on a ce qu'on appelle les cours de base, mon frère. Il faut les avoir. Beaucoup de chrétiens avancent, font des pas dans la vie chrétienne sans savoir, bibliquement parlant, est-ce que Jésus-Christ est Dieu. Donc pourquoi tu dis que Jésus-Christ est Dieu? Tu dis que Jésus-Christ est Dieu parce que j'ai prêché que Jésus-Christ est Dieu. Tu es venu à l'église, on t'a dit, frère, Jésus est le Seigneur et le Sauveur. Amen. Tu n'as pas encore rencontré un vrai faux docteur. Là, le temps me manque. Mais si je veux te démontrer tout de suite des choses bizarres, je t'assure que ta foi peut vaciller. Avec la même Bible. Et en ce moment, nos églises sont fragiles. Fragiles. Parce que les personnes commencent sans poser les bases. Dis avec moi les bases. Lorsque je commence, je dois moi-même chercher à poser les bases dans ma vie. Tout ce que je forme, tout ce que j'éduque, tout ce que j'élève, je dois chercher à former les bases. Alléluia. Si tu n'as pas pu former les bases, la personne aura à rattraper ça dans la septième loi. Amen. Il faut racheter le temps. La loi du rachat du temps. Alléluia. Le langage, par exemple, ça prend à l'enfance. C'est quoi racheter le temps? Ça s'apprend quand on est enfant. C'est beaucoup plus facile à un enfant d'apprendre. Un bébé, tu peux lui apprendre même 3 à 4 langues. Lorsqu'il grandit. Si tu as manqué cette saison pour apprendre le langage, que plus tard, tu décides par exemple de parler l'anglais, tu vas faire ce qu'on appelle racheter le temps. Tu vas aller réapprendre les bases de l'anglais. C'est pas parce que tu es adulte que tu sais dire bonjour en français et puis t'exprimer que ça veut dire que pour l'anglais que tu n'as pas appris depuis que tu es enfant, que tu es expert, pour revenir, on va t'apprendre d'abord good morning. Comme un bébé. How are you? Fine, thanks. And you? Fine. Ça dit bien. Ce sont les bases, mon frère. Pour parler l'anglais, tu vas apprendre l'anglais, tu vas revenir aux bases. Tout ce qu'on fait commence par les bases. Alléluia. Qui est avec moi? Tu veux sauter les bases. Il y a des personnes ici qui ont appris le français sans apprendre les bases du français. Et comme beaucoup parmi nous, on a parlé le français, ça apprend les bases du français. Ça donne le français qui est dans la rue d'Abidjan. Amen. Moi, j'estime qu'au niveau de l'engagement, j'ai raté certaines bases. Mais qu'est-ce que tu peux faire à l'école. Mais si tu as raté les cours de base de français, ça va te rattraper tôt ou tard. Tu manques les cours de mathématiques, ça va te rattraper tôt ou tard, mon frère. Le jour où tu en auras besoin, tu vas appliquer la septième loi, racheter le temps. Tu vas aller, et c'est très fatigant lorsqu'on est adulte, aller racheter le temps. Il faut vraiment de la discipline. Tu dis, j'ai décidé à apprendre l'anglais. Pendant que tu apprenais l'anglais en sixième, tu séchais les cours. Sérieusement. Maintenant, pendant que tu éduques tes enfants, pendant que tu les formes, tu es obligé de trouver un créneau. Aller t'asseoir dans une salle d'anglais pour réapprendre. Lorsque vous manquez une base, vous rachetez le temps. Vous êtes obligé de faire un effort supplémentaire. Parce que les bases, on ne peut pas les sauter, on ne peut pas les manquer. C'est le fondement de tout. Si vous manquez ça avec votre enfant, vous lui créez des problèmes. La Bible dit, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Tu commences ton entreprise, c'est quoi les bases? Le langage de ton entreprise. La ponctualité. La rigueur. Si les personnes ne le suivent pas, la Bible dit, prends la verge. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est enfant, on a des envies bizarres, on a des caprices. Il faut chicoter. Les employés qui sont à la maison, il faut leur montrer qu'au début, tu es rigoureuse, ma soeur, dans la maison. Pas dit non, comme elle vient d'arriver, je vais être trop souriante. Je n'ai pas dit de t'énerver pour lui faire mal. C'est pas de ça que je parle. Mais je parle de la fermeté. Elle ne sait pas. Les personnes avec lesquelles tu travailles, tout ça c'est enfant. Tout ce qui commence, c'est une saison d'enfance. Tu dois poser les bases. Je veux qu'on travaille à tel. Elle arrive. Premier avertissement. Deuxième. Troisième. Sanction. Alléluia. Sinon, si tu as manqué la base, lorsqu'elle va travailler 4 ans après toi, la personne va venir au travail quand elle veut. À ses horaires. Toi aussi, tu ne peux pas t'en débarrasser parce qu'elle connaît beaucoup de choses dans ta maison. Mais au début, quand vous avez commencé votre union, votre alliance, vous n'avez pas posé les bases. Si vous ne posez pas les bases, quand vous commencez votre foyer va avoir des problèmes plus tard. Quand le moment où tu es dans la joie avec ton mari, vous vous entendez bien. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas? C'est quoi la base du foyer? Chérie, moi je veux qu'on rentre. Tous les soirs, j'aime, mon chéri, qu'on soit ensemble à table à la même heure, vers 20h. C'est une base pour toi d'éducation. Vous êtes convenu là-dessus. Éduquez-vous. Apprendre le repas ensemble tous les jours depuis le début de votre couple. Que ça devienne une habitude, une base pour votre couple. Que le soir, on dîne ensemble. Si vous manquez cette habitude, ma soeur, quand ton mari va prendre l'habitude, toi-même tu prendras l'habitude. Jamais vous ne rentrez. Ça dit que à 20h à la maison pour prendre le dîner. Vous avez dit, hé chérie, il y a longtemps on n'a pas dîné le soir ensemble. Mais vous ne pouvez pas rattraper ça.
bon, vous pouvez l'acheter.
Mais ça devient compliqué. Lorsqu'il s'agira maintenant de vous asseoir avec les enfants pour dîner ensemble, vous êtes obligé. Ça devient compliqué parce que vous avez raté la base. Si vous avez décidé d'avoir la base de déjeuner avec vos enfants ou de prier avec vos enfants, c'est pendant créer l'éducation de prière avec les enfants. C'est pendant qu'ils ont enfants, mon enfant, mon fils, quand tu te lèves le matin, on prie. Tu ne fais pas ça avec ton enfant. Là, c'est ton enfant biologique. Hein. Tu ne lui apprends pas à prier. Il ne doit pas prier parce qu'il a envie. Ton fils là, il ne doit pas prier. Elle doit pas prier. Ta fille ne doit pas prier parce qu'elle a envie. On ne prie pas comme ça. Quand on est enfant, ce n'est pas une envie, on cherche. Prie. Elle ne sait pas prier. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Amen.
Amen.
Amen. Le matin, c'est comme ça. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Le matin, c'est comme ça. À midi, prie avant de prendre ton repas. Seigneur Jésus, dans son langage qu'elle peut, mais commence. Pose les bases. Pose les bases. Alléluia. Et quelquefois, utilise la verge dans un esprit de conduire. Alléluia. Cinquième loi. Là, on a fini l'enfance. Maintenant, on rentre dans la jeunesse. Alléluia. On entre dans la jeunesse. Peut-être quand j'ai expliqué ceci, plusieurs ont vu de nombreux domaines où ils ont manqué les bases. Moi-même, quand Dieu a commencé à me révéler ces choses, j'ai vu trop d'aspects. Je dis, j'ai raté les bases ici. J'ai raté les bases là. Parce que moi-même, on m'a pas pris ça quand j'étais petit. J'ai raté telle base. Donc, je suis obligé d'appliquer la septième loi, le rachat du temps. Et c'est plus pénible de racheter le temps. Tu t'imagines, tu as 44 ans, c'est maintenant que tu vas l'apprendre le chinois. Tu commences une entreprise, il n'y a pas de base de comptabilité. Ça veut dire que tu ne commences pas par une rigueur comptable. Ça, c'est un truc de base. Plus tard, tu veux rectifier le tir pour amener la comptabilité. Frère, tu vas racheter le temps. Tu vas payer deux fois le prix. Mais la base, ça ne pardonne pas. Si tu ne l'appliques pas, elle va te détruire. La justice n'aura pas de fondement. Il faut toujours rattraper la base. Alléluia. Et profitez de la saison de l'enfance pour le faire. Cinquième loi, apprenez les lois et les clés durant votre jeunesse. Apprenez les lois et les clés durant votre jeunesse. Donc, après l'enfance, on arrive à la jeunesse. Alléluia. Comment est-ce qu'on arrive à reconnaître qu'on passe à la période de la jeunesse? Comment est-ce qu'on reconnaît ça avec les enfants? Que votre enfant n'est plus enfant. Comment? Ok. Le physique. Dites-moi, est-ce que c'est vraiment l'âge? L'âge, on peut dire c'est environ vers 12 ans. Mais la réalité, c'est que pour pouvoir savoir que ta fille, ton bébé n'est plus bébé, tu vas regarder le physique. Ok? Peut-être les seins. Le garçon, ça va commencer à changer. Comment c'était papa?
Non. Papa.
On dit, hé, hey, Eti.
Ouais.
La voix devient rock. Ok. En fait, on arrive à sentir le changement d'une saison par un principe qu'on appelle le principe de l'observation. Il n'y a pas d'autre manière de retrouver un changement de saison. Mais c'est très important de savoir qu'une chose que je tiens, que quelque chose que Dieu m'a donné à faire, qu'une entreprise, qu'un ministère ou toute autre activité passe par la période. Parce que pendant l'enfance, il faut se comporter comme un enfant. Lorsqu'on devient adulte, il faut aussi changer. Si tu tiens, pendant que ton garçon, ta fille, est devenue adolescente, tu refuses d'admettre l'adolescence, tu vas lui causer des sérieux problèmes. Il y a des mamans qui ont des problèmes avec ça. Elle veut tellement que leur... Et puis des papas aussi. Tellement tu veux que l'enfant... Ton petit papounet que tu as vu là, tu veux qu'il reste papounet. Et tu ne te rends même pas compte que ton garçon a commencé à remarquer la jeune voisine. Mais comme tu ne te rends pas compte, tu ne peux pas l'éduquer. Je vous ai dit ceci, vous ne pouvez pas contrôler ce que vous ne connaissez pas. Pour pouvoir contrôler une chose, pour pouvoir éduquer. Amen. Il faut accepter, il faut observer. La loi de l'observation. Il faut observer. Jésus pouvait dire ceci. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Ou bien le principe de l'observation. Matthieu chapitre 16, verset 3. Il dit, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Jésus se plaignait des pharisiens. Il leur dit ceci: quand vous regardez le ciel, vous avez dit qu'il va faire beau lorsqu'il va pleuvoir. N'est-ce pas? Est-ce qu'on sent lorsque la pluie va arriver? Comment est-ce qu'on sent que la pluie va arriver? Par l'observation. Comment est-ce qu'en réalité, on a pu arriver à établir les saisons sèches, les saisons de pluie? C'est juste de l'observation. On arrive à sentir le changement des saisons par l'observation. Ça veut dire quoi? Il faut que vous ouvriez les yeux en toutes choses. Première chose. Alléluia. Il faut que vous ouvriez les yeux. Vous allez sentir que l'atmosphère change. Vous allez sentir que pendant que votre entreprise est petite, vous mettez les bases. Pendant que votre couple est jeune, vous êtes en train de mettre les bases. Chérie, c'est quoi nos bases? Dans notre couple, on a une vie de prière. C'est quoi notre vie de prière? Ça, c'est une base conjugale. Amen. Nous prions dans notre famille, dans notre couple, tous les mercredis soirs à 18h. Il faut le commencer. Si vous ne commencez pas, moi par exemple, c'est un de mes défauts. Je n'ai pas commencé ça très tôt. Mon épouse me demandait ça tout le temps. Il faut qu'on ait un culte à la maison. Il faut qu'on ait un culte à la maison. Quand notre couple était enfant, j'ai dit, oh, moi je suis conduit par le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit. Quand je suis devenu, parce que notre couple, maintenant, on n'est plus enfant. Amen. Ça fait 10 ans maintenant qu'on est mariés, quand même, frère. Alléluia. Voilà. Au moins, on est rentré dans la phase de la jeunesse et de l'adolescence. C'était difficile à rectifier. Parce qu'on a pris des habitudes. On a manqué cela. Mais vous pouvez sentir, alléluia, que donc vous avez posé les bases. Vous sentez que vous, votre couple, votre entreprise, tout ce que vous avez, quitte la période de l'enfance pour passer à l'étape de la jeunesse. Dès que ça rentre dans l'étape de la jeunesse, il y a un autre comportement, une autre attitude, certaines choses qu'il faut faire, des actes à poser. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Alléluia. Alléluia. Paul dit, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant, j'agissais, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai changé ma manière de raisonner. Pendant qu'on est enfant, il faut être enfant. Lorsqu'on devient jeune, adolescent, comment encore se caractérise? Qu'est-ce que vous allez observer? Vous allez observer pendant la période de transition que vous commencez à avoir beaucoup plus d'obstacles et de difficultés et les choses se règlent plus difficilement. Amen, amen, amen. Jean dit ceci: jeunes gens, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le diable. C'est dans la jeunesse qu'on commence à voir un peu le diable. Vous allez commencer à sentir certaines oppositions. C'est la période où votre couple quitte la période du coup de foudre. C'est-à-dire la période où tu couvrais toutes les fautes de ton conjoint. Tu vas commencer à ouvrir les yeux, à te rendre compte qu'il est vraiment un peu désordonné quand même. Lorsque votre couple enfant, vous êtes tellement content, ton mari jette son pantalon par ici, c'est pas grave. Je t'ai expliqué que c'est là qu'il faut poser les bases. Même pendant que toi-même tu viens manger, est-ce que tu apprécies que ton mari jette le pantalon comme ça dans la chambre? Non. Ça, c'est une base, n'est-ce pas? Donc, pendant que vous êtes jeune couple, chérie, dans le placard, on plie, on met ça là. Ce sont les bases. Si tu ne poses pas les bases, lui, il a pris les habitudes. Chaque fois, il jette le pantalon, c'est toi qui viens, tellement tu es amoureuse. Et tu ranges. Oh. Subitement, quand tu passes la saison, ça va commencer à t'irriter. Ça veut dire quand ces choses-là, qu'il faisait même, commencent à te faire de plus en plus mal, votre couple n'est plus un enfant. Je dis, il ne faut pas regarder les dates. Il y a des couples qui quittent de l'enfance en moins d'une année. Ils ont fait leur bébé là. Ça dure 1 an. 2 années de mariage, ils rentrent dans l'adolescence de leur foyer. Certains ont une lune de miel qui dure 5 ans. Il y a des couples même, ça peut durer 10 ans. Mais bon, c'est quand même rare. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, dans cette période-là, vous allez commencer à vous rendre compte que les choses ne sont pas si systématiques que cela. Dans votre entreprise, vous allez vous rendre compte que ça ne fonctionne pas exactement comme vous souhaitez. Et les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Vous allez commencer à sentir beaucoup plus d'opposition. C'est la période où le Seigneur dit ceci: cherchez et vous trouverez. L'autre étape, c'est demander, l'on vous donnera. Les choses sont beaucoup plus faciles. Dans la seconde saison, Jésus dit, cherchez, vous trouverez. Alléluia. Et c'est pourquoi on a donné ce principe qu'on pourra développer plus en détail les prochaines fois. Apprenez les lois et les clés durant votre jeunesse. Dans la vie d'un enfant, qu'est-ce qui se passe? C'est pendant l'adolescence qu'il apprend la vie. Comment est-ce qu'on fait pour amener l'argent à la maison? Comment ça fonctionne? Dans la période de l'enfance, sur le plan spirituel, vous allez voir, vous priez, vous demandez des choses à Dieu, il vous le donne. Dans la période de votre jeunesse spirituelle, vous demandez à Dieu 50 000 francs pour décanter une situation, Dieu ne vous exauce pas. Ça ne marche plus. Si vous souhaitez vous marier pendant la période, tu viens de naître dans la foi, tu avais 25 ans, c'était pratiquement la période du mariage. Père, je veux me marier. Ça peut, Dieu peut te faire grâce très vite. Si tu as passé cette période, tu ne vas pas demander le mariage, tu vas chercher le mariage. Si tu passes l'étape du demander, parce que dans l'étape du demander, on dit, demandez, l'on vous donnera. Ça c'est quand un moment, maman, j'ai faim. Tiens le pain. Dans la jeunesse, tu vas à l'école, tu commences à avoir les examens, tu comprends comment est-ce qu'on fait rentrer le pain dans la maison. Tout à l'heure, j'ai introduit mon message en vous parlant de la sagesse. C'est dans la jeunesse que Dieu va commencer à vous rendre sage. Il va vous apprendre les lois et les principes de la foi. C'est en ce moment-là que les choses que vous aviez facilement dans vos prières, vous ne les obtiendrez plus facilement. Avant, tu priais. Quand tu pries pour un paralytique, il marche au nom de Jésus. Tu vas comprendre comment le don de guérison fonctionne. Moi, au début, je pensais que j'étais ouin. Je prie, les malades sont guéris. Je prie. J'ai dit non. Bientôt, mon onction va atteindre celle de Rena Bonke. Frère. J'ai passé par une période. On m'a humilié dans mes prières pour les malades. L'église a commencé à me rejeter. Je prie, les malades ne sont pas guéris. Moi-même, je me suis dit, j'abandonne le don de guérison. Il ne faut pas abandonner le don de guérison. Cherche. Tu n'obtiens plus les choses facilement. Demandez, l'on vous donnera. Virgule. Cherchez, vous trouverez. Quand vous rentrez à l'étape du chercher, dans cette saison, tout doit se chercher. Vous allez apprendre la loi. Vous allez apprendre comment Dieu a fait. Puis votre couple était joyeux comme ça au début. Vous allez apprendre. Tu vas apprendre comment est-ce qu'on crée la paix dans le foyer. Avant, tu avais la paix. C'est-à-dire, dès que tu t'es marié, on s'entend. Tout va bien. C'est l'étape du demander. Tu dis, Seigneur, que mon couple ait la paix. Et Dieu te donne la paix. Quand tu passes à l'étape du chercher, que mon couple ait la paix n'arrive pas. Tu vas chercher comment on retrouve la paix dans un couple. Tu vas l'apprendre. Comment on forme un enfant. Quand tu pries pour la conversion, tu dis, je prie pour que mon frère se tourne à Jésus. Il se convertit en même temps. À un moment donné, tu pries pour que tes parents se convertissent, ne se convertissent pas. Tu vas chercher comment Dieu amène quelqu'un à Christ. Tu vas chercher. Ton entreprise, tu priais, donne-moi un marché. On t'a donné un marché. Que mon entreprise bouge. L'entreprise a fait un pas. Quand Dieu, tu finis cette saison, prie pour les marchés, tu vas voir. Dieu va t'apprendre les lois du marché. Comment est-ce qu'on fait rentrer dans la boîte une affaire? Avant, tu priais simplement. Ton oncle dit, tiens, marché, mon fils. Mon petit. À un moment donné, ton oncle te laisse. Tes parents t'abandonnent. Il ne faut pas être contre eux. Il ne faut pas être aigri. C'est la saison de Dieu. Amen. Tu rentres dans l'adolescence. Ne sois pas contre quelqu'un. Laisse-les tranquilles. C'est l'étape du chercher. Tu vas comprendre comment Dieu fait pour disposer le cœur en ta faveur. Comment est-ce que la dernière fois il t'a donné si facilement certains marchés? Tu vas comprendre comment ça fonctionne. Les marchés deviennent plus compliqués à avoir. Ton entreprise qui bougeait au départ commence prend un coup de ralenti. La croissance de l'église s'arrête un moment. Tu vas commencer à comprendre les règles de la croissance. Cherchez, vous trouverez. On va encore développer cela davantage mercredi prochain, qui est la saison de la jeunesse ou de l'adolescence dans tout ce que Dieu nous donne d'avoir. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui abondamment. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc mon frère, ne sois pas découragé de ce que les choses ne fonctionnent pas comme tu souhaites. Tu es rentré dans cette boîte, au début tout le monde appréciait ton travail, ton directeur aimait ce que tu faisais, c'est bien, c'est bien. Quand Dieu te fait rentrer dans l'étape de chercher, ton même DG te regarde avec un œil méchant. Toutes les faveurs qu'on te faisait commencent à se fermer. Pac, tac, tac. Tu vas apprendre, tu vas chercher. Comment est-ce que Dieu règle un cœur pour qu'il te donne la faveur? Ne te plains pas, ne murmure pas. C'est juste une saison. La saison de la jeunesse est agréable. Elle n'est pas difficile. Dis à un voisin, c'est agréable. Il y en a qui veulent pleurer déjà. J'ai fini l'enfance. Oh Dieu. C'est très bon, la saison de la jeunesse. Alléluia. Parlons à Dieu, parlons à Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous a parlé de poser les bases. Il nous a parlé de la transition de la jeunesse, de l'enfance à la jeunesse. Ce principe s'applique pour toutes choses. Les saisons de la vie s'appliquent en toutes choses. Tout ce qui commence, tout ce qui naît a des cycles. Tout ce qui naît a un cycle. Tout ce qui naît, tout ce qui commence. Est-ce que je commence à prêcher? Il y a un cycle. L'enfance, la jeunesse, la maturité. Merci Seigneur pour ta grâce divine. Merci pour ta parole qui remplit nos cœurs et pour ta volonté dans nos vies. Merci parce que tu nous remplis de sagesse et tu nous donnes de discerner les temps et les saisons et d'agir en fonction d'elles dans le puissant et précieux nom de Jésus. Amen.
Si ce message vous a édifié, procurez-vous d'autres messages sur des thèmes tout aussi enrichissants. Au revoir et à un autre message.